France Culture, 6h-7h, les petits matins. Tout de suite, les titres de l'actualité par Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous. Et l'actualité de ce matin est encore dominée par l'annonce de l'instauration du couvre-feu pour 20 millions de personnes. Jeudi soir, hier, c'est le Premier ministre Jean Castex qui en a précisé les modalités ainsi que les mesures d'accompagnement. Les commerces des 9 métropoles concernées devront fermer de 21h à 6h du matin, à l'exception des établissements de santé et médico-sociaux ou les restaurants pratiquant la livraison à domicile. Par ailleurs, toutes les fêtes privées dans des établissements accueillant du public seront interdites. Les billets de train ou d'avion après 21h vaudront dérogation. Très attendues par le monde économique, les mesures de compensation ont aussi été détaillées. Bruno Le Maire a annoncé que toutes les entreprises de moins de 50 salariés situées dans les zones de couvre-feu seront éligibles au fonds de solidarité. Et pour les hôtels, cafés et restaurants, ce fonds de solidarité pourra être perçu en cas de perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%. Quant au personnel soignant appelé à renoncer à leurs vacances de la Toussaint, ils recevront une indemnité compensatrice de 110 à 200 euros brut par jour. Enfin, la prime de 150 euros versée aux allocataires du RSA ne concernera pas, en revanche, tous les allocataires des APL, comme cela avait été annoncé pourtant par Emmanuel Macron. Les indicateurs sanitaires du Covid-19 se sont encore aggravés hier, avec plus de 30 000 nouveaux cas de contamination en 24 heures, un record. Les négociations sur le Brexit n'ont pas vraiment débouché hier, premier jour d'un Conseil européen. Angela Merkel a appelé à des compromis de part et d'autre pour débloquer ces négociations, notamment commerciales. Une prise de position du Premier ministre britannique Boris Johnson est attendue ce vendredi. Enfin, hier, Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés à distance lors d'un duel télévisé. La campagne américaine est chamboulée par l'épidémie de Covid contre laquelle le président Trump continue de ne rien faire. C'est ce qu'a déclaré le candidat démocrate et ancien vice-président.
C'est un texte de français, d'histoire ou de philosophie, Molière, Hugo, Yourcenar, Racine et même le général de Gaulle, lu par un grand comédien et analysé de manière experte avec le concours de l'éducation nationale.
Olivia Gesbert, en français dans le texte.
Je décidais de retourner les voir pour annoncer ma mort prochaine et irrémédiable et paraître mon propre maître.
Texte au programme cette semaine, juste la fin du monde du dramaturge Jean-Luc Lagarce. En français dans le texte, ce samedi à 17h sur France Culture et sur l'appli Radio France.
À la fin des années 80, un réalisateur de comédies à succès fait face à ses démons pour tirer de ses angoisses matière à des films personnels, troublants et dérangeants.
Sur France Culture, plan large, Antoine Guillot.
Il s'appelle Patrice Lecomte et avec Tandem et Monsieur Hir, il gagne ses galons de cinéaste. Patrice Lecomte, le plus versatile et inclassable des réalisateurs français et notre invité, nous causerons fanfaronnades et solitudes et bien sûr, avant tout, de cinéma.
Plan large, ce samedi sur France Culture à 15h et sur l'appli Radio France.
6h02, excellent réveil sur France Culture. Tout de suite, le monde vivant de Bruno David. Ce matin, Monet et l'origine des plantes à fleurs.
Qui n'a pas été saisi d'émotion à l'orangerie face aux nymphéas de Claude Monet? Des amis étrangers m'ont avoué y avoir été au bord des larmes. Claude Monet détient le record des représentations de nénuphars effectuées par un seul homme, 300 peintures réalisées durant les 31 dernières années de sa vie. Voici un peintre de l'école impressionniste qui, au sommet de sa gloire, crée un jardin dans sa propriété de Giverny, acheté pour se consacrer à la peinture, bien entendu, mais aussi à sa passion botanique. Il y plante des nuées de fleurs, de grands saules pleureurs, y installe un étang et y fait construire un pont japonais. Puis, fidèle à sa méthode de travail obsessionnelle sur la lumière, Monet peint des dizaines de toiles où l'on trouve des fleurs de nénuphars, blanches, roses, rouges et jaunes. Monet adore ses chers nénuphars, et en ce sens il n'est pas très original. En effet, quelle plante est l'objet de plus d'admiration et de dévotion que les nénuphars? En Égypte, le lotus bleu ou nénuphar bleu est sacré. Scientifiquement dénommé Nymphaea cerulea, il symbolise la renaissance, la réincarnation. Il est vrai que la capacité germinative des graines de lotus bleu persiste très longtemps. Et on a ainsi pu faire germer des graines récoltées dans le fond d'un étang vieilles d'environ 1300 ans. En Inde, c'est le lotus d'Orient, Nelumbo nucifera, qui est dit lotus sacré. La fleur de Nelumbo est perchée sur une petite tige au-dessus de l'eau évoquant l'élévation au-dessus de la fange. En Chine, elle symbolise la pureté et l'élégance. Mais j'ai mélangé les termes de lotus, nénuphar, nymphéa. Une pagaille vernaculaire. Serait-ce la même chose pour le botaniste? Pas du tout. Les principaux genres des vrais nénuphars sont nymphéa, les nymphéa au sens strict donc, et nuphar. Ce sont des plantes aquatiques, aux feuilles rondes, flottantes, représentées en France par le nénuphar jaune, nuphar lutea, et le nénuphar blanc, nymphéa alba. Les nélimbos asiatiques, les lotus donc, en sont des cousins. Pour revenir à Monet, le botaniste admiratif d'étoiles peut y voir du lotus sacré, nélimbo nucifera pour le rose, puis les espèces européennes, nymphéa alba, la blanche, et nuphar lutea, la jaune. Maintenant, élargissons un peu le propos et parlons des angiospermes. Je m'explique. En botanique, on appelle les plantes à fleurs angiospermes. De la pâquerette au bambou, au chêne ou au blé, leur diversité est considérable. Mais quelle est l'origine de ce foisonnement? En 2019, le séquençage du génome du nénuphar bleu atteste que nénuphars et lotus, autrement dit les nymphéales, font partie des lignées les plus anciennes de plantes à fleurs, déjà épanouies au début du temps des dinosaures. Des fossiles de fleurs et de pollen trouvés dans le Trias de Chine semblaient déjà indiquer que les angiospermes pouvaient être plutôt anciennes. Les nouvelles données moléculaires le confirment, avec un point d'origine des nymphéales calculé à 225 millions d'années au Trias moyen. Claude Monet, sans le savoir, travaillait sur l'origine des fleurs.
Mettez vos sens en éveil, 6h, 7h, les petits matins de France Culture.
C'est un texte de français, d'histoire ou de philosophie, Molière, Hugo, Yourcenar, Racine et même le général de Gaulle, lu par un grand comédien et analysé de manière experte avec le concours de l'éducation nationale.
Olivia Gesbert, en français dans le texte.
Je décidais de retourner les voir pour annoncer ma mort prochaine et irrémédiable et paraître mon propre maître.
Texte au programme cette semaine, juste la fin du monde du dramaturge Jean-Luc Lagarce. En français dans le texte, ce samedi à 17h sur France Culture et sur l'appli Radio France.
À la fin des années 80, un réalisateur de comédies à succès fait face à ses démons pour tirer de ses angoisses matière à des films personnels, troublants et dérangeants.
Sur France Culture, plan large, Antoine Guillot.
Il s'appelle Patrice Lecomte et avec Tandem et Monsieur Hir, il gagne ses galons de cinéaste. Patrice Lecomte, le plus versatile et inclassable des réalisateurs français et notre invité, nous causerons fanfaronnades et solitudes et bien sûr, avant tout, de cinéma.
Plan large, ce samedi sur France Culture à 15h et sur l'appli Radio France.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Habituellement le vendredi, on traite de l'actualité de la bande dessinée, mais aujourd'hui, vendredi 16 octobre, c'est une journée spéciale sur France Culture. Tous les programmes, toutes les émissions tenteront chacune de répondre à la question: que faisons-nous du débat public? Comment faire entendre un débat d'idées à l'heure de la puissance du buzz et des diatribes expéditifs? Dans le monde culturel, dans les milieux intellectuels et les universités, dans le monde scientifique, dans les médias nouveaux et anciens, aux États-Unis comme en France, partout, on a le même sentiment que le débat d'idées s'est dégradé. Philosophes, historiens, sociologues, artistes, journalistes vont venir tout au long de cette journée débattre à ce sujet. Et pour bien commencer cette journée spéciale, le journaliste Frédéric Taddeï, dans le métier justement d'organiser des débats d'idées, chose qu'il est devenu impossible de faire à la télévision française, avait-il déclaré pour expliquer son arrivée sur la chaîne de télévision russe francophone Russia Today, où il anime désormais l'émission quotidienne de débat Interdit d'interdire. Et également présente avec nous Claire Blandin, historienne des médias. Cette crise amplifiée par les nouvelles pratiques numériques est-elle si inédite que cela? Bonjour Claire Blandin, bonjour Frédéric Taddeï.
Bonjour.
Oui, une journée spéciale avec un intitulé « Que faisons-nous du débat public ?» avec un point d'interrogation à la fin. On aurait tout aussi pu mettre un point d'exclamation. Alors d'abord, Frédéric Taddeï, Claire Blandin, est-ce que vous êtes d'accord avec le constat ?
Oui, sans doute. Comme vous l'avez dit, c'est ce qui fait que je me suis exilé pour pouvoir continuer. Maintenant, ça me paraît pas non plus définitif. Il suffirait de décider que l'on recommence et l'on recommencerait. Il n'y a pas de malédiction, vous voyez. Quand d'ailleurs, dès que ça a commencé à aller mal avec les gilets jaunes, qu'a fait Emmanuel Macron ? Un grand débat.
Mais quand vous dites ça peut s'améliorer, à quel moment ce débat d'idées s'est dégradé ou l'organisation de débats d'idées à la télévision n'a plus été possible, Frédéric Taddeï ?
Dans mon cas personnel, c'est après ce soir ou jamais, parce qu'il y a eu une nouvelle présidence, une nouvelle direction de France Télévisions, mais il faudrait peut-être demander à Claire Blandin, c'est elle l'historienne. Vous savez, quand j'ai commencé à faire ce soir ou jamais, 10 ans auparavant, puisque cette émission a duré 10 ans, on disait déjà qu'il n'y avait plus de débat à la télévision. Il se trouve que à ce moment-là, la présidence de France Télévisions a eu envie qu'il y ait des débats et m'a demandé de les organiser. Mais je me souviens pas qu'on disait « Ah, c'est formidable, c'est l'époque où il y a du débat partout !»
Mais qu'est-ce qu'on vous reprochait? Les invités ou juste une audience qui n'était pas satisfaisante?
L'audience était formidable, mais non, croyez-moi, par rapport à ce qu'il y a d'habitude, elle était formidable. Non, à un moment, on n'a plus envie de ça, mais ça ne me choque pas en tant que tel. J'ai fait une émission pendant 10 ans, je n'allais pas la faire pendant 30 ans, vous voyez, donc il fallait bien qu'elle s'arrête un jour. Ça ne me choque pas. Ce qui est choquant, c'est quand vous dites ensuite qu'il ne faut plus de débat ou qu'il ne faut tout simplement plus d'émissions culturelles. Voilà, ça peut me choquer, mais comme de toute façon je regarde pas la télé, j'en suis pas forcément victime, vous voyez, mais je plains les téléspectateurs.
Claire Blandin, vous avez aussi l'impression que aujourd'hui on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à organiser des débats d'idées?
C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une période de réorganisation du paysage médiatique. Quand on regarde historiquement ce qui s'est passé au XXe siècle, les médias sont censés être au cœur de cet espace public, hein, pour justement organiser le débat dans le cadre démocratique. C'est comme ça qu'ils ont été posés, institués au fil de notre histoire, par la Révolution française, par la loi sur la liberté de la presse en 1881. On leur a donné ce rôle-là. Mais vous le voyez, il faut qu'il y ait des moments de réorganisation. Malheureusement, ce sont souvent des moments de crise où ce paysage médiatique se réorganise, est obligé de le faire pour permettre à nouveau à la démocratie de fonctionner un peu mieux, en fait, de manière un peu plus fluide.
Mais sauf que ce qui se passe dans les médias, on le retrouve dans le milieu universitaire, on le retrouve y compris dans le milieu scientifique.
Alors, c'est vrai que la circulation des idées prend de nouvelles formes dans tous les milieux aujourd'hui. Les dates que je vous ai citées auparavant, c'est des dates de grande crise institutionnelle. Hein. La date la plus récente, finalement, qu'on pourrait citer, c'est la Libération. C'est 1946, c'est notre dernière grande réorganisation du paysage médiatique et de l'université et de la circulation des idées. Effectivement, tout cela est lié. Donc, on peut se demander aujourd'hui, est-ce que le législateur n'a pas une forme de retard par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre société sur le plan de l'évolution technologique, sur le plan de l'évolution sociale, et est-ce qu'il n'y a pas un retard à rattraper pour réorganiser justement cette circulation des savoirs, des opinions?
Vous parlez donc du passage à l'ère numérique?
Oui, le passage à l'ère numérique, mais aussi ce qu'est la vie quotidienne des Français, c'est-à-dire les fractures sociales, les fractures numériques, les fractures territoriales, le changement de statut d'un certain nombre de métiers intellectuels qui se sont féminisés, dévalorisés dans le même temps au cours des 20, des 30 dernières années. Donc on a des évolutions sociales qui sont majeures et dont on n'a pas forcément encore bien pris la mesure et dont on sent les sursauts, les soubresauts et les conséquences dans notre organisation sociétale.
Frédéric Taddeï, vous aujourd'hui par exemple, comment vous faites pour organiser un débat, pour choisir un sujet de débat plutôt qu'un autre ?
Moi, en l'occurrence, j'ai toujours procédé à peu près de la même façon. Après, sur la forme, ça change. Mais vous posez une question qui est dans l'actualité, vous n'êtes pas obligé d'inventer un débat. Parfois, ça arrive, on se dit, tiens, cette question, personne ne se la pose, il faudrait se la poser. Et ensuite, vous allez essayer de trouver les gens qui ont travaillé sur ce sujet, qui représente, si possible, toutes les visions qu'on peut en avoir. Vous n'allez pas prendre des chroniqueurs que vous payez toutes les semaines pour avoir des avis sur tout, si vous voyez la différence. Non pas que ce soit désagréable, ce genre de discussion de café du commerce, c'est pas désagréable. On peut en avoir entre amis le week-end chez soi et bien s'amuser. Mais disons que ça n'apporte pas grand-chose. Donc vous prenez des gens qui ont travaillé, de façon très différente. Ça peut être des artistes, ça peut être des intellectuels. Faire un film sur le travail le dimanche ou faire un essai sur le travail de le dimanche, c'est toujours travailler sur le travail du dimanche. Vous voyez, et ça peut être très intéressant. Chaplin a dit sur la crise de 29 des choses bien plus importantes que tout ce que les journalistes à ce moment-là pouvaient dire. Et ça nous reste aujourd'hui dans l'esprit. John Ford, John Steinbeck, de la même manière. Les artistes, il ne faut pas les dévaloriser. Ils ont un regard qui est aussi pertinent que
les intellectuels. Alors vous dites qu'il faut que les gens aient une légitimité pour pouvoir parler.
La légitimité est un faux problème. Parce que si on parle de légitimité, les gens vous diront toujours « qu'est-ce que cet artiste a comme légitimité ?» Mais on s'en fout de la légitimité. Ce qui nous intéresse, c'est le travail et la vision. Vous pouvez avoir une vision intéressante, originale ou pas, même si vous avez tous les diplômes qui vous rendent légitime.
Oui, alors est-ce que les débats tels qu'on les propose aujourd'hui dans les médias traditionnels et dans le monde de l'édition, est-ce qu'ils rendent compte vraiment des préoccupations de l'heure et du réel? Autrement dit, est-ce que les débats proposés rencontrent les attentes des citoyens?
Je ne sais pas ce que sont les attentes des citoyens.
Oui,
parfois, ils ne le savent que quand on leur propose. Et à la limite, je dirais que ce n'est pas le problème. Moi, je crois qu'on peut le résumer de la façon suivante. Il y a des débats aujourd'hui, il y a des débats sur Twitter, sur Internet, il y a des émissions de débats, notamment sur les chaînes d'information continue avec des chroniqueurs. Donc, pour être voyant vous dire, il y a du débat. Sauf que ces débats-là, en fait, cherchent l'affrontement, le clash. Pas le buzz, le clash. Le clash, c'est qu'il y a un bon et un méchant. C'est très rassurant, le clash. Les grands médias aiment bien le clash. Sauf que le clash, c'est une logique de guerre civile. Vous voyez, c'est j'ai raison ou j'ai tort, tu es bon, tu es méchant, je t'élimine, et d'ailleurs, après un clash, vous pouvez vous retrouver éliminé. Tout à coup, la terre entière a l'air de vous fondre dessus pour vous dire que vous êtes un monstre. Ça, c'est une logique de guerre civile.
On est dans cette logique aujourd'hui, Frédéric?
Très souvent, elle est encouragée par les médias. Il y a un populisme des médias, vous savez, les médias aiment beaucoup dénoncer le populisme des hommes politiques, mais il y a un populisme
ou des réseaux
médias,
sociaux.
Ou des réseaux sociaux, voilà, c'est toujours la faute des réseaux sociaux. Mais vous pouvez être aussi dans le populisme, dans les médias. Donc, à l'opposé du clash, il y a le débat. Le débat, c'est plus subtil. C'est plus rassurant, c'est moins rassurant, si vous voulez, parce que tout est complexe dans le débat, surtout si vous le faites comme je le fais, c'est-à-dire en montrant qu'il y a différentes visions du monde, il peut y en avoir 5, 6, parfois plus, et c'est pas rassurant du tout. Vous dites, c'est pas aussi simple que j'aurais cru ce problème, je croyais que c'était noir ou blanc. Ah non, finalement, il y a du gris, il y a du bleu, il y a du rouge.
C'est ça votre objectif, Frédéric Taddeï, à la question à quoi servent les débats?
C'est de montrer la complexité de la question, c'est que vous soyez amené à reconsidérer l'opinion que vous pouviez en avoir, et puis surtout à montrer que c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est qu'on peut ne pas être d'accord et pourtant s'écouter et vivre ensemble. Ça, c'est la démocratie. Le clash, c'est la guerre civile.
Le réveil culturel, Tofik Hakem sur France Culture.
Et journée spéciale, que faisons-nous du débat public? Claire Blandin, vous qui êtes historienne des médias, vous rappelez que si tous les journaux, si tous les médias ont leur tribune, leur page, débat d'idées, confrontation des arguments, chaque titre insiste pour que ces débats soient là pour conforter sa ligne éditoriale.
Oui, alors dans les médias sont organisés, enfin les espaces de débat sont mis en scène à ouais. l'intérieur des médias. Bien sûr, ce sont des espaces qui sont contrôlés, qui sont convenus. Ça fait partie d'une organisation générale, du journal ou de la chaîne de télévision. Et on sait que ces espaces qui ne sont pas strictement identifiés comme ceux de la rédaction sont aussi des endroits pour réaffirmer la ligne éditoriale du journal ou pour jouer avec. Au Figaro, par exemple, pendant longtemps, le courrier des lecteurs, dans la plupart des journaux, le courrier des lecteurs est évidemment fabriqué par le journal, largement, et dans le Figaro, pendant longtemps, ça a été un espace d'expression d'une droite plus à droite que le reste du journal. C'était quand même la rédaction qui s'exprimait, mais c'était un autre espace, comme par ailleurs le Figaro Magazine pouvait aussi être un espace pour cette nouvelle droite d'émergence. Et les pages de débat, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on va donner la parole à un certain nombre de personnalités extérieures, ce qui renforce cette parole, mais bien sûr, on va rester dans un cadre qui est celui de la ligne éditoriale du média et qui est celui qui est attendu en fait par la rédaction dans son projet général.
Et pour ça, vous donnez des exemples, ça existe depuis toujours, vous dites que le J'accuse d'Émile Zola était là aussi en 1898 pour conforter la ligne éditoriale de l'Aurore, que le manifeste des 343 salopes, s'il a été publié dans le Nouvel Observateur en 1971, c'était aussi parce que c'était un combat de la gauche, et on peut arriver jusqu'à la tribune de Virginie Despentes dans Libération. Mais alors, le débat, il se situe où ? C'est-à-dire, chacun a un point de vue, et puis ensuite, c'est au lecteur ou au citoyen de se faire une idée en passant d'un journal de droite à un journal de gauche ?
Le projet du paysage médiatique, c'est ça. C'est-à-dire que la circulation des idées se fasse dans le paysage, dans son ensemble. Et je parlais de la Libération tout à l'heure. La loi Bichet, c'est celle qui oblige à avoir tous les quotidiens présents dans tous les kiosques de France pour que justement le citoyen puisse aller dans son kiosque et se faire une idée de la diversité de ses opinions. Et c'est à l'intérieur de
Mais
cette diversité...
Mais concrètement, ça se passe pas comme ça. Généralement,
ça se passe pas
chacun
comme ça.
Va chercher... ce qu'il a envie de lire, il a son journal, non ?
Oui, et c'est sans doute la difficulté contemporaine, c'est que ces phénomènes de bulles médiatiques sont redessinés par les réseaux sociaux. Alors je dis redessinés parce que ça existait aussi. Le lecteur de l'Humanité dans les années 50, il n'avait pas non plus accès à l'information du Figaro. Mais aujourd'hui, on sait que presque chaque citoyen peut se créer ses propres bulles par ses réseaux sociaux, par ses lectures, et qu'on a un phénomène de fragmentation de ces médias qui est extrêmement important.
Vous sortez de votre bulle, justement,
non, mais
Frédéric Tadei.
C'est le plus important, si vous voulez. Évidemment qu'il y a eu des... qui a eu, comme le disait Claire, il y avait le lecteur de l'Humanité, le lecteur du Figaro, il y avait celui qui regardait l'ORTF et qui pensait que c'était ça l'objectivité, etc., etc. Aujourd'hui, la grande révolution, c'est que chacun peut s'exprimer, chacun est devenu émetteur. Par la même occasion, les journalistes qui avaient le monopole de l'information se sont retrouvés tout à coup en situation de concurrence, mais pas seulement avec les réseaux sociaux, avec Internet, ils l'ont été dès que on a pu voir en France, des chaînes étrangères. Ça a commencé avec CNN pendant la guerre du Golfe. Tout à coup, CNN arrive et vient dans le tuyau de nos chaînes à nous et on regarde CNN. Et tout à coup, le journaliste français se rend compte qu'il n'a plus le monopole de l'information. Ensuite, il y aura Al Jazeera. Aujourd'hui, il y a Russia Today, RT France, etc. etc. Et il le prend très très mal, le journaliste français. Mais au lieu de devenir meilleur, plus objectif, plus intéressant, plus... Non, tout à coup, il va crier « Ah, les autres, c'est de la propagande » des fake news. Et c'est, à mon avis, le point de départ du malentendu, si vous voulez. Et tout à coup, les journalistes prennent une mentalité d'assiégé, se méfient de tout et de tout le monde, refusent souvent les débats parce qu'on ne sait jamais qui on va être obligé d'inviter, etc., etc. Et que tout le monde a tendance, au fond, à préférer la morale à la vérité, à mettre ses idées, ses opinions en bandoulière, surtout montrer patte blanche en permanence, pour montrer qu'on est sérieux, qu'on est dans le bon camp, au lieu d'être journaliste.
Quand vous regardez CNews, par exemple, Frédéric Tadei.
Quand je regarde qui ?
Une chaîne comme CNews.
Mais je regarde pas tout ça.
Moi. Ouais.
Je vous parle de tout ça théoriquement. Je ne regarde pas ça plus qu'autre chose.
Ceci dit, cette attitude des journalistes n'est pas propre qu'aux médias. Hein. Je veux dire que quand il y a une volonté d'interdire un livre, un débat, un artiste, on a parlé de cancel culture, des campagnes de boycott, comment vous réagissez, vous, Frédéric
Mais tout
Tadet
le monde fait ça, tout le monde est toujours... il n'y a pas que d'aujourd'hui qu'on veut interdire un film ou qu'on voudrait qu'un tel ne puisse plus jamais travailler. Ça a toujours existé.
Non mais ça, cette fois-ci, ça sort des campus.
Aujourd'hui, c'est... Mais dans tous les campus, c'est une vraie tradition en France et notamment de l'extrême gauche que de ne pas vouloir que les autres puissent s'exprimer. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est renforcé par les chambres d'écho que sont les réseaux sociaux, les blogs, etc., etc. Dès l'instant où tout le monde est émetteur, tout le monde peut donner son avis, généralement, ce sont les fanatiques qui donnent le ton. Vous savez, c'est ben, Claire,
clairement
le contraire. C'est vrai que, oui, c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu dans ce que vous dites qui est celui de l'internationalisation. Avec une circulation des médias à l'échelle internationale qui est beaucoup plus rapide et vraiment facilitée par les dernières décennies et l'évolution technologique et politique des dernières décennies. Reste la question fondamentale qui est celle que vous posiez tout à l'heure de la légitimité. On parlait de la fin du 19e siècle et du J'accuse tout à l'heure. C'est le moment où émerge une figure qui est celle de l'intellectuel. L'intellectuel, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui peut donner son avis dans le débat public parce qu'il a acquis une légitimité dans un autre domaine artistique, littéraire, scientifique, etc. Et la vraie question de la recomposition actuelle, c'est celle-ci, c'est-à-dire qui a quelle parole, avec quelle autorité ? Et c'est l'autorité de la parole de qui ? Les chroniqueurs dont vous parlez, c'est des professionnels du débat. C'est des gens qui vont effectivement être là pour animer cet espace débat des médias, mais qui n'ont pas cette légitimité en eux-mêmes. Ils pratiquent une forme de journalisme, bien
mais
sûr.
Mais je crois qu'il n'y a pas de légitimité innée. Aucun diplôme ne vous donne la moindre légitimité pour donner votre opinion sur la crise du pétrole, sur le coronavirus,
alors,
etc.
Alors, pour éviter
etc.,
justement cette question qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler, qui a cette légitimité de pouvoir mener un débat. La dernière question que j'ai envie de vous poser, Frédéric Tadei, c'est justement à propos de ce que vous faites au quotidien. Est-ce que vous vous souvenez un peu de la dernière fois que vous avez eu l'impression d'avoir raté un débat, loupé une émission ? C'était pour quel débat et pour quelle raison ?
Mais ça peut arriver très souvent, c'est que les gens, par exemple, vont être trop d'accord les uns avec les autres. Si les gens sont trop d'accord les uns avec les autres, et ça peut arriver dans un débat, il y a un phénomène de contamination. Vous vous respectez, vous êtes content d'écouter l'autre, même si vous n'étiez pas d'accord au départ, et vous allez faire le choix de vous tourner plutôt sur ce que vous partagez plutôt que ce qui vous divise. En cela, ça peut être très agréable, y compris pour l'animateur. Mais vous perdez quelque chose du débat parce que tout à coup, dans l'opposition qui pouvait exister et qui, encore une fois, pour moi, une opposition, ça n'est pas radical. On n'est pas obligé de se tuer à la fin. Une opposition, on peut vivre avec. Cette opposition, tout à coup, n'apparaît plus. Et parmi les gens qui écoutent ou qui regardent ce débat, ils ont envie que cette opposition existe. Pourquoi est-ce important ? C'est ce que je dis toujours. Vous n'allez pas convaincre les gens à l'issue d'un débat qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. Simplement, en comprenant pourquoi les gens ne sont pas d'accord, on comprend où est le problème. Et c'est le plus important, très souvent, c'est de comprendre où est le problème. Vous voyez, c'est pas forcément de savoir qui a raison, qui a tort.
Enfin, avec vous, Claire Blondin, j'ai envie de vous poser la question, mais à l'envers, la dernière fois que vous avez vu, lu, entendu, ces derniers jours, un débat que vous avez jugé réussi, intéressant, enrichissant, c'était pour quel débat, pour quel sujet ?
Très bonne question. Je vais citer, le site de l'Université Ouverte et les débats actuels sur la nouvelle loi de programmation de la recherche, parce que c'est vrai que ce sont les débats qui m'intéressent aujourd'hui. Mais voilà, je me tourne vers des médias militants pour aller les trouver.
Merci Claire Blondin. Merci Frédéric Tadei.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Et la journée spéciale autour du débat public continue dans un petit quart d'heure, c'est-à-dire après les informations, après le journal des idées de Jacques Munier. On retrouve les enjeux internationaux avec Julie Gacon qui reviendra bien sûr sur ce débat. Cette nuit, le débat entre Joe Biden et Donald Trump. Est-ce qu'on peut toujours débattre aux États-Unis ? D'autres questions, par exemple, est-ce qu'on débattait mieux au 18e siècle ? Ça, c'est l'objet de l'émission de Adèle Van Rett à 10h. Heure dans les chemins de la philosophie. Peut-on débattre de la science? Ça, ce sera bien sûr le sujet de la méthode scientifique à 16h. Et Étienne Klein fera partie des invités de Nicolas Martin. Une journée donc à suivre à la radio ou sur franceculture.fr. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Vous vous rendez compte, par le fait que je suis née en Iran, mon passeport me permettait de voyager dans un seul pays.
Petite fille excentrique de la bourgeoisie de Téhéran, la dessinatrice Marjane Satrapi découvre la France en colonie de vacances, les chocobéennes, les malabars, les gros mots, l'odeur du métro, en un mot, la liberté. Elle publie en 2000 sa biographie en bande dessinée, Persepolis, qu'elle adapte au cinéma. À voix nue, Marjane Satrapi, du lundi au vendredi à 20h sur France Culture et sur franceculture.fr.
France Culture présente l'exposition « Métier d'enseignant, métier d'élève » au Munae à Rouen. L'enseignant exerce un métier, il transmet des savoirs. Mais comment considérer le métier d'élève? À partir des collections du musée, d'objets emblématiques, des archives audiovisuelles du réseau Canopée, plongez-vous dans une évolution de l'école, du 19e siècle à nos jours, au cœur des pédagogies contemporaines. Métier d'enseignant, métier d'élève, jusqu'au 5 septembre 2021 au Munae, Musée national de l'éducation à Rouen. Un partenariat France Culture.
France Culture, il est 6h30. Tout de suite, le journal par Anne-Laure Chouin. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Et dans ce journal, nous reviendrons sur les conséquences économiques de ce nouveau couvre-feu et les mesures annoncées pour l'accompagner, avec un focus sur les petites entreprises et les problèmes de loyers qui vont se poser. Retour également sur la crise hospitalière. Les soignants étaient appelés à manifester hier. Et puis le procès des attentats de 2015 continue. Hier, la cour d'assises spéciale de Paris a auditionné deux femmes proches de l'un des accusés sans parvenir à faire toute la lumière, nous dira Florence Turne. Après l'annonce, les modalités. Hier, le Premier ministre Jean Castex a précisé comment s'établirait le couvre-feu annoncé la veille pour les grandes métropoles. Fermeture des commerces entre 21h et 6h du matin dans les zones concernées. Interdiction des fêtes privées dans les lieux rassemblant du public. Quant aux mesures économiques de soutien aux entreprises qui pâtiront de ce couvre-feu, elles ont aussi été dévoilées. Les mesures d'urgence prises lors du confinement sont étendues. Le fonds de solidarité pour les petites entreprises est rétabli pour tous les secteurs. Au total, 1 milliard d'euros supplémentaires ont été débloqués. Une question pourtant reste en suspens pour les petites entreprises et autres commerces, celle des loyers. Anne-Laure Jumet.
Les loyers, c'est le problème le plus compliqué à régler, reconnaît-on à Bercy, car il n'y a pas que les grands bailleurs dans l'équation. Il y a aussi ces particuliers qui ont investi dans l'immobilier, certains à la retraite, et qui comptent sur ces rentrées d'argent pour boucler leur budget. Au printemps dernier, les entreprises éligibles au fonds de solidarité avaient la possibilité de reporter le paiement des loyers, mais ce filet de protection s'est éteint le mois dernier, et puis le travail de conciliation auprès des grands bailleurs s'est révélé plutôt inopérant. Alors aujourd'hui, il y a des commissions de médiation à l'échelle des préfectures pour permettre aux commerçants locataires en difficulté de trouver des solutions avec leurs bailleurs. Mais c'est largement insuffisant selon les organisations patronales. Parmi les solutions envisagées, une idée semble faire consensus, celle d'un crédit d'impôt pour les petits propriétaires bailleurs de locaux commerciaux. Une idée poussée à la fois par la Fédération nationale de l'immobilier et par la CPME qui représente les petites et moyennes entreprises. Grâce à cette mesure, les bailleurs pourraient accepter plus facilement des demandes de report de loyer, c'est en tout cas l'objectif. Bruno Le Maire s'est dit prêt à l'étudier. Reste maintenant à en définir les contours avec les professionnels concernés. Hier, au moment d'aborder cette question, le ministre de l'économie n'a cité que les secteurs de l'hôtellerie-restauration.
Hier également, des précisions ont été données sur l'aide d'urgence débloquée pour les plus précaires. 150 euros pour les bénéficiaires du RSA et de l'allocation spécifique de solidarité, plus 100 euros par enfant qui seront également octroyés aux bénéficiaires des aides au logement, mais pas de prime de 150 euros pour tous les allocataires de ces APL. Comme l'avait pourtant annoncé Emmanuel Macron jeudi soir, l'aide aurait touché assez largement les 18-25 ans. D'autres annonces à destination des publics les plus fragiles devraient intervenir demain, samedi, à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère. Des mesures d'accompagnement qui n'ont pas forcément apaisé les esprits, notamment dans les milieux qui seront le plus touchés par l'instauration du couvre-feu. Plus largement, cette restriction des libertés interroge notre mode de vie en temps d'épidémie. Présenté comme un moindre mal pour éviter un reconfinement généralisé plus drastique, le couvre-feu pourrait tout de même entamer la confiance des ménages en l'avenir. C'est l'analyse qu'en fait en tout cas le think tank libéral Génération Libre, qui a fondé depuis le début de l'épidémie un observatoire des libertés confinées, relevé juridique des mesures prises par l'exécutif. Et selon son directeur général Maxime Zbahi, la France se prépare à des lendemains douloureux, humainement, socialement et économiquement. Écoutez-le, interrogé par Mathieu Laurent.
Pour créer de la richesse, il faut déjà laisser les gens travailler. Or, aujourd'hui, ces restrictions empêchent beaucoup de personnes de travailler, pour des raisons justifiées ou pas, mais en tout cas, c'est un effet concret. Et puis, vous avez aussi quelque chose qui se distille dans la société française aujourd'hui, qui est la peur. Et effectivement, la peur est un allié de taille pour la sécurité, pour faire concurrence à la liberté, et notamment cette liberté d'entreprendre, cette liberté de voyager, d'échanger, qui est le grain, en tout cas le sel, de ce qui fait l'innovation, de ce qui fait la créativité, de ce qui fait l'inventivité, bref, de ce qui fait le génie aussi français de pouvoir se projeter vers l'avenir. Et donc le problème, c'est quand vous utilisez des mots martiaux comme guerre et couvre-feu, quand vous instaurez des restrictions et que vous prenez des citoyens pour des enfants et donc pour des individus responsables, cette peur-là, elle peut effectivement bloquer beaucoup d'élan, notamment dans la jeunesse, de créativité et d'invention, et ça peut se répercuter à terme sur l'économie, et notamment dans un facteur qui en économie est très important, qui est la confiance dans l'avenir, la confiance dans les autres. Le risque, c'est qu'à terme, une fois que vous êtes sorti du tunnel de l'état d'urgence, et ben vous en payez en fait le prix par une croissance amoindrie et un pays qui est durablement pessimiste. Est-ce qu'on n'est pas en train d'hypothéquer l'avenir en essayant de lutter contre ce virus ?
En attendant, les indicateurs du Covid-19 se sont encore aggravés hier avec plus de 30 000 nouveaux cas de contamination en 24 heures et des admissions quotidiennes en réanimation qui continuent d'augmenter selon les chiffres de Santé publique France. Le bond du nombre de contaminations s'accompagne d'une hausse continue de la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées. Et comme en écho à la situation actuelle dans les services de réanimation, les personnels soignants étaient appelés à la grève hier pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail, notamment dans les hôpitaux publics. Malgré le Ségur de la Santé et l'annonce de la création de 15 000 places depuis juillet, les personnels ne voient rien venir. Ils redoutent même de ne pas arriver à faire face à cette seconde vague d'épidémie de Covid-19. Le reportage de Tara Schlegel dans la manifestation parisienne qui a rassemblé hier quelques centaines de personnes.
La crise touche tous les établissements, même en province. Didier Lequieff est secrétaire général CGT au centre hospitalier Saint-Junien, près de Limoges, qui compte 380 lits.
On s'aperçoit que l'après-Covid est encore pire que l'avant-Covid. Quand on entend le gouvernement nous dire qu'on va réouvrir des lits au mois de décembre, chez nous, pour manque de personnel, on a déjà fermé 12 lits. On a réouvert 2 pour le Covid, donc on a quand même 10 lits de fermés. Sur la chirurgie, on a 5 lits de fermés parce qu'ils partent du principe qu'on a une activité qui est sur 20 lits à la place de 25, alors que nos 25 lits, on les remplit. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de personnel infirmier et de soignant, on ne peut pas s'en occuper. Et sur la médecine, c'est un problème médical. Le fait qu'un médecin s'en aille, on ferme tout de suite 10 lits.
Moralité, depuis juillet, ici, 25 lits ont fermé, alors que Matignon promet de nouvelles places. De toute façon, poursuit Didier, les finances sont à sec. Et dans l'EHPAD où il travaille, on manque par exemple d'un agent de service hospitalier à l'accueil.
Là, actuellement, on en aurait besoin pour recevoir les familles, si vous voulez, pour prendre les températures, quand on rentre chez nous en EHPAD. Et ben, même sur ce poste-là, qui ne demande pas de qualification, une petite formation d'une journée pour prendre une tempête, mettre des noms, une signature, ben même ça, ils n'embauchent pas.
Résultat, en l'absence de ce salarié, les proches des résidents ne peuvent venir que 3 heures par jour dans cet EHPAD. Aucun agent n'a le temps de descendre à l'accueil, prendre la température des visiteurs. Ils sont déjà en sous-effectif chronique.
Là, on en est sur des mesures de gradé. Si vous n'avez pas de personnel l'après-midi, c'est le personnel du matin qui reste 4 heures de plus et le personnel de nuit qui arrive 2 heures avant et qui fera 12 heures de nuit.
Des vacations de 12 heures d'affilée qui génèrent, affirme ce délégué CGT, plein d'heures supplémentaires que l'hôpital ne peut même pas payer, de quoi vraiment décourager les meilleures volontés.
La suite du procès des attentats de janvier 2015 à la cour d'assises spéciale de Paris. Hier, le tribunal auditionnait deux femmes qu'il a fallu convaincre de témoigner à la barre en délivrant un mandat d'amener. Il s'agit de l'ancienne épouse religieuse et de l'ex-belle-sœur de Mohamed Fares, l'un des accusés dénoncé en cours d'instruction par une lettre anonyme. Mais l'audition des deux femmes n'a pas permis de faire la lumière sur les nombreux points d'interrogation qui subsistent. Le compte-rendu d'audience de Florence Thurme.
Tunique noire, voile beige et masque sur le bas du visage, la jeune femme se fige d'emblée face à la cour. Je n'ai rien à dire. Le président lui rappelle qu'on a décelé son ADN sur un pistolet retrouvé dans l'appartement d'Amédi Coulibaly sur le chargeur, précise le magistrat. Lors de sa garde à vue, elle a commencé par nier avant d'admettre avoir touché le petit carré qui contient les balles. C'est mon frère qui avait ramené l'arme à la maison. Et vous n'avez posé aucune question ? Je sais pas. Je me rappelle pas. Même réponse à chaque question, à la limite de la provocation, elle déclare avoir découvert qu'Amédi Coulibaly avait commis des attentats seulement 2 ans plus tard. « Charlie Hebdo, ça me disait quelque chose, mais je ne savais pas quoi. » Murmure dans la salle, nouveau geste d'agacement, « Moi, je veux juste oublier cette histoire, ça fait mal à la tête. » L'apparente désinvolture masquerait-elle une crainte profonde ? L'avocate de Mohamed Fares cite un procès verbal d'audition. « J'ai peur pour moi. » Je veux pas qu'on sache ce que j'ai dit, ils vont me démonter à 100. Nouvelle dénégation, je crains mon créateur, pas ma famille. Sa sœur, l'ex-épouse de Mohamed Fares, n'apportera pas davantage d'éléments probants, très en retrait par rapport aux propos accusateurs tenus en garde à vue. C'est une vengeance en fait, dit-elle. Son ancien compagnon l'a frappée et elle s'effondre en larmes à la question déplacée d'une avocate de la partie civile sur les sévices qu'elle a subis. Maître Safia Akori pour Mohamed Fares revient doucement vers elle. Peut-on considérer qu'une partie de ce que vous avez dit vient de la pression en garde à vue ? Et elle répond simplement oui.
Florence Thurme, les négociations sur le Brexit en question hier pour le premier jour d'un Conseil européen. Les discussions n'ont pas débouché sur les sujets qui fâchent, mais la nécessité de faire des efforts de part et d'autre a été réaffirmée, notamment par la chancelière allemande et le négociateur en chef Michel Barnier. Boris Johnson, lui, devrait s'exprimer sur le sujet aujourd'hui. Un mot du temps de ce vendredi, gris, frais et humide. Du Grand Est à l'Auvergne-Rhône-Alpes, ciel bas avec des petites bruines. Débrouillard ce matin sur le nord et l'ouest du pays. Les températures de 1 à 6 degrés sur la moitié ouest, 5 à 10 degrés à l'est et cet après-midi de 10 à 16 degrés en général. 6h40 sur France Culture. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Anne Lorchouin.
Dans votre journal des idées ce matin, la gestion de la crise sanitaire a été pilotée en lien étroit avec les médecins, épidémiologistes et économistes. Les sciences sociales, en revanche, n'ont pas été consultées malgré leur connaissance de la société. Et aujourd'hui, certains chercheurs le déplorent.
Oui Anne-Laure, et ils s'expriment notamment dans une tribune publiée par Libération, je cite... Les sciences sociales sont appelées à s'exprimer seulement pour commenter les conséquences de la situation, effets psychologiques du confinement, acceptabilité des mesures, irruption déstabilisante de nouveaux objets dans le monde. Anne-Lévy Mozzi-Conacci, médecin généticien au CHU de Marseille, avec les géographes Evelyne Mesclier et Pascal Metzger, estime qu'à se focaliser sur le virus, cet inconnu, on en oublie le connu sur lequel on a prise, c'est-à-dire la connaissance du monde social. Or, ce qui fait crise, ce n'est pas le virus tout seul, c'est le virus qui entre en résonance avec la société. Les géographes en particulier ont bien noté le lien entre la diffusion du virus et les formes contemporaines de la mondialisation, avec les lieux de brassage des populations, que sont les grands aéroports internationaux, les agglomérations tentaculaires, les corridors de circulation et les zones de trafic divers. Les signataires préconisent donc d'aller au-delà de l'interprétation biologique à la fois du virus et de la société afin de gérer la crise en prenant en compte un éventail plus large d'éléments permettant de comprendre la pandémie et d'anticiper ses évolutions, déployant ainsi une gamme plus ample de ressources pour la freiner. Conditions de logement, emploi, système de transport, espace public, toutes ces données doivent entrer en considération dans la gestion de la pandémie. Dans les quartiers nord de Marseille, un collectif Nord-Covid, composé de médecins de ville et hospitaliers, de militants associatifs, a proposé une réorganisation de l'espace et mis en place un circuit court de prise en charge globale, à la fois sanitaire et sociale, appuyé par l'ONU. l'ONG Médecins sans frontières, écrivent-elles. La gestion des risques en temps de crise peut opposer des intérêts contradictoires dont il faut alors débattre. Ainsi, au Pérou, des sociologues et des géographes ont montré que le virus suivait la route des travailleurs de l'agro-exportation, déplacés sans précaution particulière en bus ou camion vers les lieux des récoltes, ce qui n'a trouvé aucun écho dans les grands médias du pays. Un virus n'est pas une entité vivante comme une bactérie, car il a besoin d'un corps à infecter pour se démultiplier et passer ensuite à un autre organisme vivant. Son agentivité s'avère donc 100% géographique, souligne Michel Lusseau dans ses chroniques de Géo. Viral, lutter contre lui oblige à des réponses elles aussi géographiques. Pardon. Le livre est une sorte de journal du confinement remis à jour. Le géographe relève l'impressionnante cinétique du virus. La mondialisation urbaine a accéléré les espaces-temps de nos vies, comme ceux des non-humains avec qui nous sommes en relation. Les espaces agricoles n'échappent pas à la pandémie. En Californie, dans les comtés ruraux, le même phénomène qu'au Pérou a pu être observé du fait de la présence de travailleurs pauvres, latinos pour la plupart, venus trouver de l'emploi dans les exploitations, ce qui soulève la question de la vulnérabilité des plus démunis et notamment de leurs conditions d'hébergement. L'espace épidémique mondial est différencié localement, régionalement, nationalement. Il est anisotrope, résume Michel Lusseau. Anisotropie, le mot provient de la physique et désigne la propriété d'un corps d'être dépendant de sa direction, de son orientation. Sur le continent européen, cette propriété de la pandémie s'est illustrée en particulier dans la situation contrastée de l'Allemagne et de la France. Dans les Échos, Solveig Godeluc explique que si les Allemands s'en sortent mieux que nous, c'est aussi pour des raisons sociodémographiques. Outre la question des masques et des tests et d'une mobilisation plus rapide pour briser les chaînes de transmission, l'Allemagne, qui a confiné en même temps que nous, avait 15 jours d'avance dans le cycle épidémique et ses hôpitaux, dont le maillage est plus serré que le nôtre, n'ont pas été sous tension. Pourtant, la densité de population y est plus élevée, mais à y regarder de plus près, ce que les épidémiologistes appellent la matrice de contact est en réalité plus dense en France. Les foyers y comptent en moyenne 2,2 personnes contre 2 personnes outre-Rhin. Plus de 5% des ménages français sont composés de plus de 5 personnes versus un peu plus de 3% des ménages allemands. Avec plus de monde sous le même toit et des concentrations plus importantes dans les villes, des logements plus exigus et des transports en commun plus bondés, notre pays a offert à la trajectoire du virus une autoroute payante, au sens de gratifiante, s'entend, car en Allemagne, les autoroutes sont gratuites. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon.
Bonjour Jacques.
Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, le débat public aux États-Unis est-il encore possible?
Oui, les États-Unis où sont nés les réseaux sociaux, la cancel culture et autres outils de débat ou de buzz, comme on a dit dans le réveil culturel de Toufi Kaka, mais comme il sera question tout au long de cette journée spéciale sur France Culture, que faisons-nous du débat public? La place que les médias notamment accordent à certains débats est-elle en phase avec les préoccupations des citoyens? C'est l'une des questions en filigrane de cette journée avec des débats, justement des entretiens, des chroniques. Aux États-Unis, cette période électorale d'une grande violence, pas seulement dans les mots, est propice pour la poser cette question. Bonjour Jérôme Viala-Godefroy, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Votre thèse portait spécifiquement sur les discours présidentiels américains et le récit national unificateur. C'est un mot qui paraît presque anachronique aujourd'hui. D'abord, quand on parle de débat public aux États-Unis, on parle de quoi? Et si vous voulez bien, restons dans la vraie vie, comme on dit, en dehors des réseaux sociaux. À part le Congrès, quelles sont les enceintes de débat?
Alors aux États-Unis, il y a les assemblées publiques. Ce sont presque des institutions qui c'est souvent dans les mairies où les gens peuvent discuter de législation, de réglementation, ou bien même ça peut être des lieux de protestation ou de débat plus actif, comme on l'a vu avec le Tea Party ou les électeurs opposés à l'abrogation de la loi sur la santé, par exemple.
Ça veut dire quoi? C'est des grandes enceintes où les gens se réunissent? Qui les organise, ces débats? Est-ce qu'il y a une commission de débat public comme il existe en France?
Alors, il n'y a pas de commission, c'est vraiment très local. Ça peut être aussi à la demande des électeurs, parfois. Et c'est organisé avec souvent des élus, et les personnes se lèvent, posent des questions. Et ça peut éventuellement, d'ailleurs, devenir de vrais débats, et de lieux de débat et de protestation.
Et c'est la forme qu'a pris, d'ailleurs, le débat qui devait avoir lieu hier entre Donald Trump et Joe Biden, qui n'a pas eu lieu, crise sanitaire oblige, qui est reportée à la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit alors?
Oui, alors de façon très significative, on se retrouve ici avec, on devait avoir notamment cette forme-là d'assemblée publique avec les deux candidats dans le même lieu. Et puis finalement, alors pour le coup ici, il y a une commission sur les débats présidentiels qui a demandé à Donald Trump de le faire en virtuel. Il a refusé. Et donc finalement, on se retrouve avec deux assemblées publiques à deux endroits différents qui ont lieu en même temps sur deux chaînes de télévision différentes.
Et qu'on n'a pas, donc on pouvait pas suivre en même temps. Donc
exactement.
C'est assez significatif de l'état du débat aux États-Unis aujourd'hui.
Absolument. Donc il y avait NBC avec Donald Trump en Floride et puis Joe Biden en même temps à Philadelphie sur ABC News.
Donc qui ne s'écoutaient pas, qui ne se répondaient pas, qui ne s'entendaient pas. Donc c'est merveilleux le débat. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait déjà quelques semaines, Jérôme Vialago de Froid, qu'on le dit, ce débat est davantage parasité aujourd'hui qu'il n'est encouragé par définition, notamment par la guerre culturelle que se mèneraient plusieurs Américains entre elles. Une guerre, par définition, ne souffre pas le débat.
Oui, absolument. Alors, cette guerre culturelle, en fait, elle amène des positions sur... Elle concerne les enjeux moraux. Notamment marqué par une polarisation et des enjeux de type sur l'homosexualité, sur l'avortement. Et au final, il est difficile de débattre quand on est vraiment sur des questions morales qui sont liées aussi à l'identité.
Ça veut dire quoi? C'est qu'on met plus on pose plus ces questions sous un angle politique mais moral?
Absolument. Sur un angle moral et identitaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la politique identitaire ici, depuis pas mal d'années. Et en plus, évidemment, c'est utilisé par le personnel politique pour favoriser son électorat,
Donald Trump, par exemple, ne manque pas une occasion pour rappeler que le bureau du recensement projette depuis une dizaine d'années maintenant que les Blancs deviendront minoritaires aux États-Unis dans les années 40. C'est une projection qui est très médiatisée. Lui, il joue là-dessus en permanence.
Pas complètement. Et il reprend en fait cette idée de politique identitaire qui était utilisée par la gauche et notamment par les minorités opprimées, qui demandaient à une reconnaissance politique. Et puis on a ce retournement de pas mal de Blancs qui sentent qu'il va y avoir au niveau démographique qu'ils vont être dans la minorité, puisque d'ici au moins 2050, il y aura plus de majorité d'une ethnie particulière. Et du coup, c'est devenu effectivement un sujet majeur la rhétorique de défense des minorités est maintenant utilisée pour l'identité blanche.
Alors c'est vrai que le débat il est crispé des deux côtés. Vous vous rappelez cet été une tribune de plusieurs intellectuels dont Noam Chomsky, Margaret Atwood, Francis Fukuyama et que le journal Le Monde avait publié donc cet été qui disait notre résistance à Donald Trump ne doit pas conduire au dogmatisme ou à la coercition et qui disait que de tous côtés il y a un refus du débat, un renforcement des postures morales qui risque d'affaiblir les règles du débat public au profit d'un conformisme idéologique. Dans les faits ça s'est traduit comment?
Alors oui, effectivement, on a eu par exemple le 24 août dernier, il y avait une vidéo qui est devenue virale où on voyait des manifestants Black Lives Matter qui accostaient des gens qui étaient assis pour manger au restaurant et leur demandaient de lever le poing pour les soutenir. Et une des personnes a refusé alors qu'elle soutient le mouvement, mais a refusé en disant non, pas dans ces conditions-là. Et cette vidéo a été virale, a fait le tour des réseaux
virale,
sociaux, voilà. C'est ça.
C'est toujours bizarre.
Et finalement, pas mal de gens, même à gauche aux États-Unis, reconnaissent que ça, c'est un vrai problème. Et que, c'est un peu compliqué parce que cette culture de l'annulation est à la fois bien suivie par pas mal de gens quand même, notamment chez les jeunes. Et en même temps dénoncé par pas mal de gens à droite comme à gauche.
C'est ce que il y a des prises de position qui ont aussi alors alimenté un débat, je sais pas, mais en tout cas qui ont fait polémique, notamment quand la rédaction du New York Times a décidé de mettre désormais une majuscule à l'adjectif black et non à white. À l'origine, ça partait d'une volonté de remédier à une injustice sociale. Ça a évidemment créé beaucoup plus. C'est-à-dire que voilà, des deux côtés, il y a des crispations et une montée en puissance de ce débat. Sauf que les doléances et les arguments de tous ceux qui, aux États-Unis, veulent engager un vrai débat sur le racisme, ils sont toujours, ces arguments, systématiquement retournés contre eux.
Oui, parce que justement sur cette idée, ce problème identitaire et cette idée que finalement pas mal de d'hommes et de femmes politiques utilisent ça pour pouvoir pour que leur électorat en fait se sente, enfin soit motivé dans l'élection par un sentiment de victimisation.
Par exemple, on peut remonter déjà à 2017 quand la star du football Colin Kaepernick s'était agenouillé pendant l'hymne national d'avant-match pour protester contre les violences policières envers les Noirs. La réaction de Donald Trump avait été très violente.
Oui, absolument. Et d'ailleurs, pas mal de gens sont revenus, qui avaient critiqué Kaepernick à l'époque, sont revenus sur ce qui s'est passé quand il y a eu des mouvements un petit peu plus forts et même de la violence dans certaines émeutes, en disant finalement, c'était quand même un geste très pacifique. Mais ça a été retourné sur des questions de trahison. C'est allé assez loin puisque c'était l'idée qu'il trahissait la patrie, et parce qu'il faisait ça pendant l'hymne national.
Alors pour qu'il y ait un vrai débat, il faut qu'il y ait mélange de parcours, d'horizons, de convictions. L'Amérique de Donald Trump est, on dit beaucoup quand même que ça remonte à avant lui, quoi. Il a évidemment accéléré tout ça, mais ça remonte avant. La ségrégation géographique, elle est très forte.
Absolument.
Et dans les suburbs, qu'est-ce qui...
Oui, alors justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle souvent des banlieues, des suburbs comme étant des lieux un peu homogènes, alors qu'en fait, la fracture économique est croissante également dans les banlieues. Non seulement... et cette croissance économique, en fait, elle amène aussi une division au niveau racial, puisqu'elle affecte plus les minorités. Et on se retrouve avec des personnes qui ont des modes de vie similaires, qui vivent ensemble et qui se retrouvent dans des sortes de mini-ghettos, en fait. Et d'ailleurs, il y a eu un livre en 2004 qui déjà, par le journaliste Bill Bishop, qui parlait de ça, qui notait qu'il y avait vraiment une homogénéisation des communautés et qui s'inquiétait de cette homogénéisation de certaines communautés, et notamment sur le plan politique.
Et Donald Trump ne cesse aujourd'hui d'accuser Joe Biden de vouloir abolir et détruire les suburbs en construisant des logements à bas prix, comme l'avait déjà initié Barack Obama. Que dire pour cette question, est-ce que le débat public est encore possible aux États-Unis? Que dire de la polarisation des médias? Et Anne Desine nous disait dans les enjeux internationaux encore récemment combien tous ceux qui suivent Donald Trump regarde Fox News et tous ceux qui suivent Biden suivent CNN, en gros. Voilà. Mais les réseaux sociaux ont évidemment exacerbé ça. Alors oui, voilà, est-ce que pour l'instant, on peut mesurer les effets des décisions très récentes de Twitter ou Facebook de calmer quelque peu le jeu en supprimant les messages qu'ils estiment mensongers, les incitations à la haine?
Alors là, il est un peu tôt pour pouvoir le mesurer, mais il est clair que on voit en tout cas, il y a pas mal d'études qui ont été menées, notamment donc sur les pour ce qui est de ce que vous mentionnez au niveau des médias plus traditionnels, parce que souvent Twitter est utilisé aussi, reprend en fait des choses qui se passent à la télévision. Il faut regarder aussi ce que peut faire par exemple Donald Trump, c'est pas juste ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il retweet aussi, et c'est là où ça va être intéressant de voir ce que va faire vraiment Twitter au niveau même de ses retweets. Mais effectivement, il y a aussi un déficit de confiance dans chaque parti par rapport aux chaînes de télévision qu'ils estiment être opposées à leurs candidats.
En attendant, Facebook vient d'interdire les pages du réseau conspirationniste QAnon, drôle de réseaux sociaux qui à la fois font le débat public, le régule désormais, l'empêche. En tout cas, cette question sera en filigrane de toute cette journée spéciale sur France Culture. Que faisons-nous du débat public? Merci beaucoup Jérôme Viala-Godefroy d'avoir été avec nous ce matin.
Je vous remercie.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Le débat public semble bien dégradé en France. Débattait-on mieux au XVIIIe siècle? La cancel culture ou culture de l'effacement importée des États-Unis va-t-elle s'imposer en France? Les débats dans les médias et sur les réseaux sociaux rencontrent-ils les préoccupations des citoyens? Et au fait, qu'est-ce qu'un vrai problème? Que faisons-nous du débat public? Journée spéciale avec philosophes, historiens, sociologues, journalistes, ce vendredi sur France Culture et sur l'appli Radio France.
France Culture et l'Institut du Monde Arabe présentent les Journées de l'Histoire de Lima autour du thème « Dominant et dominé ». Plus de 10 conférences et tables rondes avec les plus grands historiens et spécialistes du monde arabe pour tenter de décrypter les rouages et les mécanismes des révoltes et des révolutions arabes, les espoirs qu'elles ont soulevés et les déceptions ou les frustrations qu'elles ont engendrées. Rendez-vous le 25 octobre de 11h à 20h à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Plus d'infos imarab.org et franceculture.fr.
6h57, une nouvelle journée commence sur France Culture et c'est vendredi. Bonjour Guillaume Erner.
Bonjour Julie Gacco, bonjour à toutes et à tous.
Dans le dernier livre de Pascal Bruckner, Guillaume, une étrange dédicace.
Et oui, ce livre, Un coupable presque parfait, publié aux éditions Grasset, est notamment dédié à ceux de ses amis, explique Pascal Bruckner, qui ont voulu le dissuader d'écrire son dernier livre, lequel est consacré à quelques sujets polémiques du moment, du féminisme à l'antiracisme. Ses amis l'ont, dit-il, persuadé d'aller au bout de l'écriture de l'ouvrage en essayant de l'en dissuader. Alors si je songe aux propos brucknériens, c'est parce qu'aujourd'hui, France Culture consacre une journée à l'état du débat public en France. La sensation qui prédomine est effectivement qu'un certain nombre de sujets convoquent à la fois le bruit et le silence, bruit des anathèmes, et silence pour faire taire l'autre. Or, il s'agit d'une situation finalement très paradoxale, parce que si l'on est vraiment militant d'une cause, je veux dire si l'on en est convaincu, on peut laisser les avis opposés aux siens s'exprimer, parce qu'on n'a évidemment pas peur de se laisser contaminer, parce que l'on a aussi confiance dans ses idées, dans la force de ses idées. Vouloir faire taire les avis contraires, c'est penser ou bien qu'on n'a pas vraiment raison, ou bien que les individus sont incapables d'adhérer à la vérité que l'on détient, ils n'en ont pas la possibilité intellectuelle. Avec l'un de mes oncles, justement, hier, on évoquait certains de nos aïeux, Julie, plus stalinien que Staline, tendance Jeannette Vermeer. Vous vous souvenez de Jeannette? C'était, je le précise, pour les moins de 20 ans, la compagne de lutte, et la compagne tout court, de Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste français. Jeannette était députée, puis sénatrice de la Seine. Eh ben, ces gens-là avaient une confiance capitale en leur représentation du monde. Ils ne redoutaient pas les idées bourgeoises, ils les ignoraient. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi aujourd'hui, les petites filles, les petits-fils de Jeannette Vermeer redoutent tant les opinions d'en face? Ils les redoutent tant qu'ils aimeraient les faire taire? Et bien peut-être parce que l'art de la rhétorique, la capacité de persuader l'autre par l'argumentation, le raisonnement, fût-il fallacieux, sophistique, cet art-là s'est perdu au fil du temps, en partie tué par les réseaux sociaux, mis à mal aussi par l'agonie des idéologies classiques, parce que ces idéologies apprenaient aux êtres ce qu'est un système de pensée. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où être ami avec un auteur, c'est lui conseiller de ne pas écrire le livre qu'il veut écrire, parce que l'on redoute que Jeannette Vermeer se précipitera pour le lire.